le 7-9-30 sur France Inter.
Il est 9h09, Sonia De Villers, votre invité a été retenu otage durant 8 mois. Il a été libéré le 14 mai.
Et il est venu avec tout ce qui lui reste de sa détention, c'est-à-dire les savates en plastique qu'il a portées pendant ses 8 mois de prison. Bonjour Bernard Félan.
Bonjour Sonia.
Vous les avez posées là, sur la table, voilà, elles sont très abîmées. En fait, c'est tout ce qui reste de l'Iran, parce que quand on vous a arrêté, on vous a tout pris, on ne vous a jamais rien rendu.
Exactement, je suis rentré avec un pantalon, un t-shirt et ces tongs et quelques livres, mais toutes mes affaires étaient prises, passeport, carte.
Voilà. Et vous m'avez apporté aussi le Irish Times, qui est le journal irlandais. Vous posez avec votre mari en une après votre libération. C'est l'édition du 29 mai. Vous êtes franco-irlandais, vous êtes né en Irlande et on l'entend à votre très joli accent. Vous avez multiplié les allers-retours en Iran depuis la réouverture de l'Iran au tourisme. Ça fait longtemps que vous travaillez dans le tourisme. En fait, vous faisiez des voyages de repérage pour des tours opérateurs.
Voilà, non, pas vraiment. J'ai tombé amoureux de l'Iran il y a très très longtemps. Ça m'a fasciné. J'y allais en famille, on était 6 en 2017, oui. Et j'ai croisé des gens dans le tourisme. C'était mon ancien métier. J'ai travaillé pour le gouvernement irlandais en France. Et j'ai dit à ces Iraniens qui organisent des voyages marche à pied, vous êtes vraiment bien organisés, il faut craindre mieux. Et comme ça, je me suis mis en contact et on est devenus des amis. Et tous les ans, j'allais en Iran les aider à préparer des programmes pour les voyageurs.
C'est ça. Vous êtes arrêté sans que vous n'ayez jamais compris pourquoi. Et vous allez être tout de suite soumis à une kyrielle d'interrogatoires plus absurdes les uns que les autres.
Ah oui, c'était fou. On était arrêté avec mon ami Rania, que j'ai jamais revu. Je sais qu'il est sorti, mais j'ai pas beaucoup de nouvelles. Et oui, l'interrogatoire, c'était comme dans les films. On est en cellule d'isolement, on dort par terre, c'est avec un drap. On sait pas quelle heure il est, quel jour c'est. Moi, je me suis trompé d'une journée quand j'ai vu après un calendrier. Et je suis trompé d'heure, mais on sait pas trop quand il passe le prière sur les haut-parleurs, est-ce qu'ils bougent pas les horaires pour vous faire croire que c'est 5h et pas 19h?
À ce point-là? On est perdu dans le temps à ce point-là? Dès le début?
Après une semaine, à peu près. Parce que là, on sort pas. À chaque fois qu'on quitte la cellule, on met un bandeau sur les visages, des menottes. On sait pas si c'est pour aller voir l'interrogation, si c'est pour faire marcher dans un cours fermé, tout seul. On perd tous les repères.
Tous les repères, voilà. Vous êtes à ce moment-là le 7e otage français détenu en Iran. On est en octobre 2022. L'Iran s'est fait cette spécialité de diplomatie des otages. Mais quel type de questions on vous pose au départ, Bernard Félan?
C'était incroyable parce que au départ, au début, en français, donc j'ai appelé il ne voulait pas donner son nom, donc j'ai appelé Georges.
Votre interrogateur, vous l'appelez Georges.
Georges, parce qu'il ne voulait pas me donner son nom, mais un faux. Je lui ai dit, mais vous pouvez me donner un faux nom, mais non, non. Et parce que lui, il m'appelait Bernard.
Et il s'adresse à vous en français?
Oui, oui, pas très bien, mais plus tard, il y a un autre interrogateur qui, je crois, avait été dépêché de Téhéran. Il parle un français impeccable, Henri, j'ai nommé. Et lui portait des gants chirurgicaux blancs. On voyait ses poils, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, ça a effrayé un peu. Et les questions, c'était
celle de Georges d'abord.
Georges, il pose des questions. Bon, vous êtes marié? Oui. Vous êtes marié à qui? J'ai dit Ron Bonello. Il me dit, mais c'est pas le nom d'une femme. J'ai dit, ben non, parce qu'en Europe, on peut, dans beaucoup de pays, se marier entre hommes. Ah bon? Vous avez des enfants? Non. Et vous n'avez pas adopté? J'ai dit, tiens, c'est bizarre comme question. Je ne tendais pas ça de là.
Mais vous n'avez pas eu, comment dire, vous n'avez pas craint de révéler votre homosexualité et le fait que vous soyez marié avec un homme dans un pays où l'homosexualité est si réprimée?
Non, parce que moi, ça fait 5 fois que je suis allé en Iran, jamais eu de moindre question là-dessus. Quand vous demandez à Chambre Double, les Iraniens de tous les jours, sont des gens très ouverts, c'est des gens très éduqués. Et je savais que ils voulaient pas me torturer physiquement. Et je ne pouvais pas cacher. De toute façon, je ne pouvais rien cacher parce qu'elle avait mon ordinateur et mon téléphone.
Ouais,
donc si ça. Je cache quelque chose, et après je vais avoir des représailles, donc ça ne sert à rien de cacher.
C'est ça. Donc vous avez préféré être...
honnête dès le départ.
Honnête, ouais. C'est ça. Mais quand on vous pose des questions sur les gilets jaunes, quand on vous pose des questions... Enfin, c'est extrêmement difficile de comprendre pourquoi on est là.
Ben oui, c'est il y a une question au départ qui m'ont posé, qui m'a dit, répétez, et dit, pourquoi en Europe il y a des manifestations de gens nus? J'ai dit, pardon?
Des gens nus?
Oui,
pourquoi est-ce que les gens manifestent nus?
Parce qu'il y avait des, je sais pas, en Danemark ou quelque chose, des manifestants à vélo ou quelque chose, mais il faut qu'ils aient des questions comme ça. J'ai dit, mais je sais pas, on est libre en Europe, on peut faire ce qu'on veut dans beaucoup de pays.
À partir de quand vous êtes transféré dans cette prison où vous allez être détenu dans ce qu'on appelle le bloc de Satan?
Ben, quand j'ai une situation médicale qui n'était pas géniale, donc je pense qu'ils avaient un peu peur de me garder dans cette bloc, ce bâtiment d'interrogation, donc on m'emmenait à l'hôpital, on me dit on vous emmène à l'hôpital, et là j'ai passé 3 jours menotté au lit, avec un garde 24-24, et bon, ils ont fait des tests, je sais pas, ils m'ont fait des perfs, je sais pas de quoi, et après je pensais retourner à l'interrogatoire, et non, on m'emmène à la fameuse prison centrale de Machad.
Benjamin Brière vient de passer 3 ans en prison, de façon arbitraire. Arrêté en mai 2020 pour avoir pris des photos en drone dans ce parc naturel. La zone était interdite. Il a été accusé d'espionnage malgré ses protestations. Depuis 100 jours, il était en grève de la faim. La sœur de Benjamin Brière avait du mal à cacher son émotion.
Mes parents, ils ont fondu en larmes. C'est une torture qu'ils vivent depuis 3 ans. Un fils en prison, enfin, ils n'ont pas fermé l'œil depuis 3 ans.
Et vous voici au bloc de Satan. Vous savez pourquoi ça s'appelle comme ça, cet endroit ?
Non, on était un peu un prison dans la prison.
Une prison dans la prison.
On était vraiment bloc, on était peut-être 75-80 en tout, dans plusieurs cellules.
Voilà, vous allez être dans la même cellule que cet autre Français, Benjamin Brière, qui est beaucoup plus jeune que vous.
Voilà, oui, il a 38 ans, je crois. Mm-hmm. Et c'était un soulagement, parce que dans sa cellule, il y avait des prisonniers politiques. En Iran, ils font mélanger les prisonniers politiques et les prisonniers de droit commun.
Mm-hmm.
Donc on avait tous les types de prisonniers. Il y en a un qui parlait bien anglais, d'autres qui parlaient un petit peu, mais Benjamin Brière, c'était génial. Il parlait français, il connaissait la maison, entre guillemets.
Mais, 3 ans de détention. Quand vous parlez de prisonniers politiques, Bernard Félan, il faut savoir que vous êtes arrivé au moment... vous êtes arrêté, pardonnez-moi, au moment où l'Iran s'embrase, c'est-à-dire le lendemain de l'arrestation de Mahsa Amini et du début des manifestations. C'est-à-dire, quand on parle de prisonniers politiques, c'est quoi ? C'est des jeunes Iraniens
qui
manifestent ?
Il y avait une cellule dans notre bloc où il y avait, je crois, une vingtaine de prisonniers, des jeunes.
Ouais.
Très jeune, 19 ans, 18 ans. Et eux, ils n'avaient pas le droit de sortir, et même pour faire un peu de cuisine, pas le droit de téléphoner, pas le droit de visite.
Ouais.
Bon, moi, dans ma cellule, il y avait des prisonniers politiques. Il y en avait un qui était là, Taj, et ça fait 7 ans qu'il est là, il était condamné aux morts. Et son condamnation a été renversée il y a 2 ans, mais il a appris il n'y a que quelques mois.
C'est ça.
Donc, tous les jours, il a appelé sa femme pour prévenir, il n'est pas mort.
C'est ça, parce que vous étiez détenu avec les condamnés à mort. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les condamnés à mort du bloc de Satan, ils sont exécutés par pendaison.
Mais c'est pas que c'est ça qui est terrible. C'est notre bloc, c'est une prison officiellement de 9500.
9500 détenus ?
Officiel, mais en réalité environ 20 à 30 000. C'est Machad, c'est la deuxième ville d'Iran, 4 millions de personnes. Et c'est tous les prisonniers qui allaient être pendus passent leur dernière nuit dans notre bloc. C'est ça.
Et votre cellule, vous êtes 16 ?
En environ 16, il y a peut-être capacité de 25, 30, ça bouge. Des fois, il y a 18, 19, selon les arrivées et départs. Et moi, je n'entendais pas, parce que je prenais un somnifère, mais régulièrement, ils entendaient les gens qui pleuraient dans les blocs de cellules à côté, parce qu'ils allaient être pendus le matin suivant après les prières.
Et votre sœur, qui s'est beaucoup battue et qui a beaucoup pris la parole pendant votre détention, elle animait ce qu'on appelle un comité de soutien, disait, il faut bien se rendre compte que mon frère est malade, a des problèmes cardiaques, a des problèmes d'arthrite, il n'y a pas de chaise, il y a des lits superposés, il ne peut s'asseoir nulle part, il mange debout, il n'y a pas de fenêtre, il y a seulement des les barreaux, l'hiver il fait moins 5, ils n'ont pas de chaussettes.
Non, c'était terrible. C'est... On a pu enfin, grâce à Caroline et la mobilisation de Roland aussi.
Et Roland, c'est votre mari.
Envoyer des chaussettes, les écharpes c'est interdit, les bonnets c'est interdit, les gants c'est interdit. Donc la bouillotte c'est interdit, donc la bouteille de Coca-Cola remplie d'eau chaude pour tenir au chaud. C'était le plus froid année depuis 10 ans à Machad cet hiver.
C'est ça. Donc il y a eu 3 mois de froid absolument.
En plus, le gaz iranien il marchait plus parce qu'il y avait, il faisait trop froid. Les conduites, j'ai le gaz gelé.
Ouais. Alors voilà, vous écoutez France Inter, il est 9h19. Mon invité s'appelle Bernard Félan. Il a été libéré il y a 6 semaines après 8 mois de détention en Iran. Vous allez nous raconter, Bernard, cette grève de la faim, cette grève de la soif. Vous allez nous raconter surtout les conditions de votre retour à Paris.
I'm sitting in the railway station, got a ticket for my destination. On a tour of one night stands, my suitcase and guitar in hand, and every stop is neatly planned for a poet and a one-man band. Homeward bound, I wish I was homeward bound. Home, where my thoughts escaping. Home, where my music's playing. Home, where my love lies waiting silently for me. Every day is an endless stream of cigarettes and magazines. And each town looks the same to me, the movies and the factories, and every stranger's face I see reminds me that I long to be. I was homeward bound. Home, where my thoughts are escaping. Home, where my music's playing. Home, where my love lies waiting silently for me. Tonight I'll sing my songs again. I'll play the game and pretend. But all my words come back to me in shades of mediocrity, like emptiness and harmony. I need someone to comfort me. Homeward bound, I wish I was homeward bound. Home, where my thoughts are escaping. Home, where my music's playing. Home, where my love lies waiting silent.
Homeward Bound, Simon & Garfunkel, 1966. Ah mais voilà, mon invité est franco-irlandais, donc il rigole de mon accent. Vous voulez nous le prononcer?
Homeward Bound.
Homeward Bound.
By Simon & Garfunkel.
Voilà, je prends des cours d'anglais.
France Inter, le 7-9-30, l'interview de Sonia De Villers.
Bernard, c'est quelqu'un de très fort. Il a choisi cette grève de la faim parce que c'est la seule arme qu'il a. Je lui ai envoyé un message ce matin en disant « S'il te plaît, stop, mange, bois ». Il ne prend plus de médicaments non plus depuis début janvier. Son médecin est très inquiet pour sa santé également parce qu'il a des problèmes cardiovasculaires. Il a ses yeux qui ont des problèmes et il devient aveugle. Il voit 1m50 aujourd'hui. Donc, il n'est pas soigné correctement et donc il a des problèmes osseux aussi. Et donc, on est extrêmement inquiet pour sa santé. Il risque vraiment de mourir dans cette prison à Machad.
Caroline Félan, votre sœur Bernard Félan, qui a été vraiment la tête de pont médiatique de votre comité de soutien. Même si vous, en Iran, vous avez assumé votre homosexualité, vous avez assumé être mariée à un homme en se disant qu'il valait mieux assumer plutôt qu'essayer de cacher les choses et de subir des représailles derrière. Ben, votre époux en France, lui, s'est mis un petit peu en retrait. Et tous vos camarades gays, vous êtes coactionnaire d'un bar gay qui mythique dans le Marais, qui s'appelle le Cox, se sont mis eux aussi un petit peu en retrait parce qu'ils ont eu peur de nuire à votre cause.
Oui, c'est très bizarre comme situation. On parlait de, comme c'était le Gay Pride, il y a plein d'amis qui en parlaient. C'est bizarre. Vous manifestez votre homosexualité dans la prison. Manifestez, j'ai pas caché. J'ai caché un petit peu des autres prisonniers, mais j'ai pas caché des autorités. Et ici, Roland et les amis cachaient leur vie.
Ouais.
C'est le monde à l'envers.
C'était le monde à l'envers, c'est ça. Cette grève de la faim, vous l'avez décidée seule?
Oui, complètement. J'ai dit, j'en pouvais plus. Ma santé était pas bonne. J'étais fatigué. Je vois ma vue détériorer à vitesse. C'était terrible. Je disais à Benjamin.
À Benjamin Brière.
Brière.
Hein, votre côté français.
Je vois plus les chiffres de la pendule. C'est bizarre. Il dit oui, mais on est qu'à 4 mètres maintenant. C'est diminué. Donc j'ai décidé de cette façon. Donc j'ai rempli un formulaire en anglais. Quelqu'un m'a dit pour le titre. Et j'ai emmené mes médicaments. Et j'ai dit, je suis en grève de la faim, de la nourriture, les médicaments.
Ah, vous avez cessé vos traitements?
Oui, oui, j'ai cessé mon traitement. J'ai envie de les faire paniquer. Écoutez, moi, je suis pas très jeune, mais je suis pas en forme. J'ai l'intention qu'ils paniquaient quand ils voient les tensions.
C'est-à-dire que, de ce qu'on comprend, les Iraniens ne veulent pas d'un otage qui meurt en prison.
Voilà.
Et ça, vous l'aviez compris?
J'avais compris ça très tôt. Je savais que les Iraniens ne voulaient pas non plus me voir. Je les ai dit, vous voulez que je sorte en brancard ou en chaise volant, pire en cercueil, si vous ne faites pas attention. Mais c'est mon père qui m'a demandé, après je crois 17 jours, m'a demandé d'arrêter.
Votre père qui est très âgé.
Qui a 97 ans.
Qui crevait littéralement de peur pour vous.
Voilà, qui fait des vigiles, veillées devant l'ambassade d'Iran à Dublin.
Ouais.
Avec son ami, un copain de 101 ans. tous ces gens devant l'ambassade. C'était
97 et 101 ans.
Assis, et le gouvernement iranien qui disait ça menaçait la sécurité de l'ambassade.
Ouais. Vous avez vécu des trucs psychologiquement absolument effarants. Vous avez vécu un simulacre de procès où on vous a annoncé une peine de prison alourdie par rapport aux réquisitions du procureur. Enfin, ça vous est tombé dessus. On vous a menacé que vous restiez enfermé pendant 6 ans. Vous avez vécu. Mais je voudrais qu'on parle de votre retour. Je voudrais qu'on parle de votre retour parce que. Vous arrivez en France, c'est évidemment un immense soulagement. On se souvient de votre sœur, de son émotion, de ses larmes, de vos parents. Mais au fond, l'État français a été plus que discret à votre retour.
Oui, le cellule de crise de Quai d'Orsay a été super. Il y a des gens magnifiques là-dedans. J'étais un peu étonné, surtout quand j'ai parlé avec Florence Omna.
Alors Florence Omna, donc c'est notre consoeur du Monde,
voilà.
Qui vous a consacré un long papier, magnifique papier, qui nous a donné envie de vous rencontrer. Et d'ailleurs, on vous invite à le lire. Il faut savoir que quand elle avait une quarantaine d'années, Florence Omna a été détenue en otage pendant plusieurs mois. Donc elle a vécu cette expérience.
Oui, elle a vécu une expérience beaucoup pire que moi. Mais elle était un peu étonnée. Elle m'a dit, alors il y avait quelqu'un qui était à l'aéroport, parce que pour elle, il y avait Jacques Chirac qui était à l'aéroport. Jacques Chirac qui téléphonait à sa famille. Une fois, les parents ont fait un post-it sur le frigo. Jacques Chirac a téléphoné. Nous, il y avait un chef de cabinet, mais...
Donc, la ministre des Affaires étrangères n'était pas là.
Elle était en Suède.
Ni Premier ministre, ni Président de la République.
Personne, personne. Alors, peut-être ça fait partie des négociations avec les Iraniens, de ne pas faire une grande fête médiatique autour de notre tour. C'est possible. Mais en même temps, ça n'empêche pas un petit coup de fil ou une petite lettre.
Rien. C'est violent.
Ah oui, non, mais c'est... Il faut le mesurer avec le temps. Quand je parle avec d'autres personnes, d'autres otages à l'étranger, et le gouvernement ailleurs, en Irlande, j'ai dit, c'est bizarre, il n'y a personne ici qui s'est manifesté.
C'est vrai que le contraste avec l'Irlande, parce que pour le coup, le gouvernement irlandais a été extrêmement présent auprès de votre famille.
Oui, avec famille. Le président de la République a écrit des lettres personnelles que le diplomate irlandais a ramenées au prison. Il m'a lu par téléphone. Et c'est le président irlandais qui se disait avec sa femme, tous les soirs, je prie pour le sortir de Bernard.
Ouais. Et puis, il y a autre chose que vous vivez aujourd'hui, c'est que il y a des fonds d'aide aux victimes du terrorisme en France, on le sait depuis le Bataclan, malheureusement. Mais alors pour un ancien otage, rien. Il n'y a pas d'aide financière, pas d'accompagnement.
Très compliqué. Avec Benjamin, on essaie avec un avocat, parce que c'est très compliqué, ces démarches administratives, donc il faut trouver un avocat qui est prêt à le faire. Elle n'a pas le moyen, moi j'ai aucun revenu pendant ces 7 mois. Et là, on se retrouve à acheter un ordinateur reconditionné, acheter un téléphone, tout, recommencer sa vie. J'attendais un peu, c'est pas un cadeau, mais voilà un petit peu pour vous aider à redémarrer, un soutien. Allez-vous faire bichonner, aller au resto, machin, sortez, amusez-vous.
Une allocation, quelque chose en fait.
Oui, mais bon, j'ai la famille qui m'aide, mais c'est très très compliqué de redémarrer la vie.
Après ça.
Ouais.
Merci beaucoup Bernard Félan, merci pour ce témoignage. Et puis voilà, vous pouvez ranger vos tongs.
Merci Sonia, c'était...